1h28.
Chapitre 77, Le grand tonneau de Heidelberg.
Voici venu le moment de vider la boîte. Mais pour bien comprendre ce dont il s'agit, il convient que vous ayez une idée de la singulière structure interne de l'objet de cette opération. Si l'on considère la tête du cachalot comme un volume oblong, on peut, sur un plan incliné, la diviser de biais en deux coins, dont la moitié inférieure est constituée par la construction osseuse du crâne et des mâchoires, et la moitié supérieure par une masse onctueuse entièrement dépourvue d'os. La large partie antérieure, correspondant à la surface verticale du front de la baleine, opérez au milieu de ce front une sous-division horizontale du coin supérieur et vous obtenez deux parties à peu près égales, qui auparavant étaient naturellement séparées par une partie interne d'une substance épaisse et tendineuse. La partie inférieure, appelée le pâté, est comme un immense gâteau de cire aux alvéoles pleines d'huile, formé par l'entrelac, sur toute sa longueur, de fibres blanches, élastiques et dures, qui passent en tous sens dans 10 000 cellules. La partie supérieure, connue sous le nom de melon, peut être considéré comme le tonneau de Heidelberg, du cachalot, et de même que ce célèbre foudre est couvert, sur le devant de mystérieuses sculptures, le vaste front ridé du cachalot présente d'innombrables et étranges dessins, ornements emblématiques de son étonnante futaille. De plus, comme le tonneau de Heidelberg, toujours rempli des meilleures crues des vallées rhénanes, celui du cachalot contient le plus précieux de ces gras vignobles, l'inestimable spermaceti à l'état pur, limpide et odoriférant. Cette substance rare ne se trouve ainsi vierge dans aucune autre partie de l'animal tant que celui-ci est en vie. Elle reste parfaitement fluide, mais exposée à l'air après la mort, elle se solidifie peu à peu, formant de belles aiguilles de cristal, comme la première et fine pellicule de glace sur l'eau. Le melon d'un grand cachalot donne en général 500 gallons de spermaceti, bien qu'il s'en répande et s'en perde inévitablement une grande quantité lors de la délicate opération de transvasement. J'ignore de quelle jolie et coûteuse matière était doublé l'intérieur du tonneau de Heidelberg, mais pour ce qui est de la magnificence, ce revêtement ne saurait se comparer un seul instant à la membrane soyeuse au ton de perles qui tapisse, telle la doublure d'une élégante pelisse, la surface interne du melon du cachalot. On a vu que le tonneau de Heidelberg du cachalot occupe toute la longueur du sommet de sa tête, et comme, ainsi qu'il a été noté ailleurs, la tête ne comprend pas moins du tiers de la longueur totale de l'animal, si l'on estime cette dernière à 80 pieds pour un cachalot de belle taille, on obtient pour ce tonneau une profondeur de plus de 26 pieds lorsqu'il est amarré verticalement au flanc du navire. Comme le chirurgien, au moment de la décollation, approche son instrument tout près de l'endroit où sera pratiquée ultérieurement l'ouverture violente de la chambre à spermaceti, il lui faut veiller avec la plus grande attention à ce que nul coup maladroit ou intempestif ne viole ce sanctuaire et ne laisse s'échapper en pure perte son précieux contenu. C'est également cette partie sectionnée de la tête que l'on sort de l'eau et qui est maintenue ainsi par les énormes palans dont les emmêlements de chanvre sur ce côté forment une véritable jungle de cordage. Cela dit, observez, je vous prie, l'étonnante opération, presque fatale dans ce cas particulier, de mise en perce du grand tonneau de Heidelberg, du cachalot.